France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ne surtout pas rater le coup d'envoi de l'aventure olympique en France. Dernier préparatif à Marseille, à la veille de l'arrivée de la flamme. Le début d'une période hors norme pour les forces de l'ordre. Reportage aux côtés de ceux qui vont protéger les relayeurs. Policiers et gendarmes qui quadrillent aussi ce matin le col du Tourmalet où Xi Jinping achève aujourd'hui sa visite d'État. Nous, nous serons à Pékin dans ce journal. Comment la presse officielle chinoise parle de ce déplacement en France? Dans ce journal aussi, le procès en appel de l'agent Orange durant la guerre du Vietnam. Et puis vous allez découvrir un nouveau métier, le borniste, l'équivalent du pompiste, mais pour les voitures électriques.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui Rodolphe Saadé, le PDG du groupe CMA-CGM.
France Inter.
Et direction donc Marseille, où le vieux port n'a plus que quelques heures pour se faire beau.
Oui, car demain, rien ne doit gâcher la fête. L'arrivée de la flamme olympique en France vers 20h à bord du 3-mâts, le Belém. Alors on s'active encore ce matin pour décaper 36 000 mètres carrés de macadam, collecter les déchets en mer, tous les hôtels affichent complet et le dispositif de sécurité est déjà très visible sur place avec des quarts de CRS dans tout le centre-ville de Marseille. D'ici à demain, 6 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés, encore plus que pour la visite du pape en septembre dernier. La flamme en elle-même sera entourée d'une bulle de protection très étanche, assurée par une soixantaine de policiers et de gendarmes. Mathilde Vinceneux a assisté à leurs derniers entraînements.
Reprise du convoi.
C'est un convoi très lent d'une quarantaine de véhicules, des unités d'élite comme le GIGN ou des spécialistes de la lutte anti-drone. Ils entourent la flamme qui passe de torche en torche. Une flamme escortée par une vingtaine de coureurs, des policiers et gendarmes en basket, entraînés à tous les scénarios.
Là, on a une tentative d'intrusion.
Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.
L'objectif pour nous, c'est d'interpeller pour que le convoi puisse repartir rapidement et aussi de judiciariser parce que c'est un délit de vouloir ainsi entraver le convoi de la flamme.
Certains vont essayer de se servir de cette visibilité pour leurs revendications. On sait qu'on va certainement être perturbé.
Le commissaire Charles Barion.
Le niveau de sécurité doit être le même le premier jour à Marseille, le dernier jour à Paris, mais quand on va passer à Pont-Audemer, à Saverne en Alsace ou quand on sera à Dieppe.
Et certains n'auront qu'une mission, garder la flamme allumée. Jean-Marc, major de gendarmerie et gardien de la flamme.
On est responsable 24 heures sur 24, nuit et jour. Cette flamme, elle doit rester allumée de la Grèce jusqu'à Paris. Vu le dispositif, il n'y a pas de crainte à avoir.
Parce que les gardiens de la flamme conservent précieusement, à l'abri du public et des intempéries, des lanternes de secours allumées par le feu d'Olympie.
Voilà, arrivée de la flamme olympique demain, 20h à Marseille, le coup d'envoi d'un long périple à travers l'Hexagone et les Outre-mer, 400 villes traversées, 12 000 km jusqu'au 26 juillet. Ces Jeux olympiques et paralympiques vont-ils, oui ou non, doper le tourisme en France cet été? Question au cœur du comité interministériel du tourisme qui se réunit ce matin à Matignon. Sur fond de bataille de chiffres, pour le gouvernement, les indicateurs sont bien au vert. Un enthousiasme que ne partagent pas tous les professionnels. Alors Philippe Lefebvre, qui dit vrai?
Les réservations de chambres d'hôtel ou de locations saisonnières à Paris en juillet et en août prochain seraient en hausse de 40% par rapport à l'année dernière à la même époque. C'est ce qu'affirme le ministère du Tourisme. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura 40% de touristes en plus cet été dans la capitale, mais plutôt que les touristes étrangers réservent plus tôt. Ces touristes, ils seront majoritairement brésiliens, américains et chinois. Et à Tout France, l'organisme en charge de la promotion touristique de la France à l'étranger évoque même une hausse de 354% des touristes chinois qui devraient donc massivement revenir l'été prochain dans la capitale. Et impossible à ce stade de dire si ces touristes viendront spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Et du côté des hôteliers, on reste d'ailleurs très prudent. Le principal syndicat du secteur évoquait ces jours derniers un taux de remplissage moyen des hôtels dans la capitale de 64% durant les JO, tandis que la plateforme de réservation Booking notait ces derniers jours une baisse des prix dans les hôtels de la capitale durant la période olympique.
Les touristes chinois de retour, vous l'entendiez, d'autant que le gouvernement français veut faciliter pour eux la délivrance de visas. De son côté, la Chine va prolonger au moins jusqu'à fin 2025 l'exemption des visas pour les courts séjours des touristes français. Annonce faite à l'occasion de la visite d'État du président Xi Jinping. Elle se poursuit et s'achève cet après-midi dans les Pyrénées, direction le col du Tourmalet pour le dirigeant chinois, son épouse et le couple Macron. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
En direct de Pékin pour Inter. Chez vous, la presse officielle voit dans cette visite d'État l'occasion d'améliorer les relations tendues avec les Européens.
Oui, alors les Chinois sont toujours attachés au symbole et la presse officielle ici à Pékin souligne le faste qui a été réservé à Xi Jinping. Le Global Times explique que le président chinois a eu droit à un cortège impressionnant, composé notamment de 146 cavaliers de la garde républicaine. Depuis dimanche, la visite de Xi Jinping fait évidemment la une de tous les journaux de la télévision chinoise. L'importance stratégique des relations sino-françaises est mise en avant. Sur le réseau X, l'éditorialiste Ru Xijin explique que Paris exerce une position de leader en Europe et que dans ces conditions, la consolidation des relations avec la France permettra de régler une grande partie des affaires sino-européennes. Analyse très optimiste qui élude la fermeté des échanges hier sur les désaccords commerciaux et sans surprise, la presse officielle ne reprend pas les propos d'Ursula von der Leyen sur le commerce déloyal de la Chine. Enfin, sur l'Ukraine, le quotidien du peuple martèle la réponse du président chinois aux accusations occidentales. La Chine, peut-on lire, n'est ni à l'origine de la crise, ni partie prenante, mais joue un rôle actif pour parvenir à la paix.
Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine, au Proche-Orient, des bombardements intenses cette nuit sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 11 morts selon un hôpital local. Israël dit vouloir accentuer la pression sur le Hamas et n'a pas renoncé à son projet d'offensive terrestre sur cette localité où étaient encore réfugiés ce week-end plus d'un million de Gazaouis. Des dizaines de milliers d'entre eux ont commencé hier à évacuer. Pas d'inflexion donc pour l'instant. Alors qu'hier soir, le Hamas a finalement donné son feu vert à l'accord de trêve proposé par l'Égypte et le Qatar. Proposition loin de nos exigences, dit le gouvernement israélien, qui pour autant envoie ce matin des représentants au Caire, le Caire où doivent reprendre les négociations. En France, le Premier ministre annonce que 366 faits antisémites ont été recensés au premier trimestre, en hausse de 300% sur un an. Une déferlante antisémite, selon Gabriel Attal, invité hier soir du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Il a causé des séquelles physiques considérables chez des millions de civils durant la guerre du Vietnam. La justice française se penche à nouveau aujourd'hui sur l'agent orange, cet herbicide largué massivement à l'époque par les avions américains. 14 entreprises agrochimiques, dont le géant Bayer Monsanto, sont rejugées en appel à Paris pour leur rôle dans la fabrication et la commercialisation de ce produit défoliant. À l'origine de la procédure, une franco-vietnamienne de 82 ans que vous avez rencontré, Charlotte Piret.
C'était il y a près de 60 ans, mais Trantonia se souvient parfaitement de ce jour dramatique.
L'avion passait, un nuage derrière l'avion. J'ai enveloppé d'un liquide gluant et tout de suite, je toussais à m'étouffer. Là.
Depuis, Trantonia subit les séquelles de cette contamination et pas seulement elle.
Moi, j'ai des cancers. Des, pas un. Les séquelles de ce poison donnent des générations de victimes. Ma fille, par exemple, a été née avec 4 malformations du cœur. Et mes petits-enfants, je les ai transmis aussi, des maladies de poumon et puis toutes sortes de maladies. Quoi.
Alors, profitant de la compétence universelle de la France, la franco-vietnamienne de 82 ans a saisi la justice en espérant faire reconnaître la responsabilité civile des 14 entreprises américaines qui ont participé à la fabrication et à la commercialisation de cet agent orange utilisé par l'armée américaine.
Ces entreprises américaines qui ont agi avec un cynisme absolu, avec comme seule logique de s'enrichir encore plus et encore plus.
Son avocat, maître William Bourdon, garde d'espoir malgré un premier rejet par le tribunal d'Evry il y a 3 ans.
Il y a une tendance puissante du droit international pour considérer que les immunités traditionnelles doivent céder et doivent permettre à ces victimes d'être indemnisées.
Le nombre de victimes de l'agent orange au Vietnam est estimé à plus de 3 millions de personnes.
Le Vietnam qui commémorait aussi ce matin les 70 ans de la bataille de Dien Bien Phu et la victoire contre les troupes coloniales françaises. C'était le 7 mai 54. Pour la première fois, le gouvernement français était convié en la personne du ministre ministre des Armées. Le patron de la SNCF, attendu aujourd'hui au Sénat, Jean-Pierre Farandou, va devoir s'expliquer sur l'accord conclu récemment avec les syndicats sur les fins de carrière. Il va permettre cet accord aux cheminots de cesser leur activité un an avant la retraite, tout en restant rémunérés à hauteur de 75%. La droite sénatoriale y voit un contournement de la réforme des retraites. À Bercy aussi, ce dispositif a fait plus que tiquer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
La SNCF, 7h40, et ses trains particulièrement sollicités pour ce pont de l'Ascension.
C'est même un viaduc. Avec le 8 mai demain, vous serez aussi nombreux sur les routes. Bison futé, voire rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Et pour celles et ceux qui optent pour la voiture électrique, attendez-vous à croiser des bornistes aux stations de recharge. C'est un nouveau métier, l'équivalent du pompiste, mais pour l'électrique. Une centaine d'entre eux seront déployés ces jours-ci pour aider les automobilistes à bien charger leur véhicule. Laurent Kramer en a rencontré dans une station de la Défense près de Paris. Reportage.
Ça clignote. Dès que là-bas, c'est bleu. Là, il faudra juste le débrancher pour le moment.
Aider à mettre en charge les voitures électriques, Cécile est une des toutes premières bornistes de France.
Je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans et je suis borniste. C'est comme les pompistes, mais c'est en borne électrique.
Des bornes de recharge électrique pour voitures souvent compliquées pour la première utilisation.
En fait, la plupart des gens viennent et ne savent pas comment faire. Ils sont vraiment perdus. C'est pas comme à la pompe à essence, on prend, on met, on part.
Un coup de main à Kevin, chauffeur taxi venu recharger sa Tesla.
Non, c'est la première fois que je vois ça. C'est pour expliquer comment ça marche. C'est très bien.
Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment je peux vous aider? Alors moi ici, ce qui me plaît, c'est parler avec les gens et aider aussi les gens.
Merci pour les explications. Merci,
métier madame. Indispensable car les constructeurs n'expliquent rien aux nouveaux propriétaires de voitures électriques, souligne Thierry Holbert, directeur de cette station Total.
Les gens sont largués, les concessionnaires ne font pas ce que moi j'imagine être leur travail, c'est-à-dire au moins expliquer où se situe la trappe pour le chargement. Heureusement que les bornistes sont là, mais ils sont là pour ça. Ils n'existaient pas, il fallait les inventer, ils sont vraiment là pour ça, quoi.
Une centaine de bornistes seront donc déployés toute cette semaine dans les stations du groupe pour aider à mettre en charge les voitures lors de ce week-end prolongé.
Laurent Kramer. Elle était une voix connue des auditeurs de France Inter. Depuis 1989, elle racontait la Grèce dans nos journaux. Nous avons appris la mort d'Angélique Kourounis, correspondante de Radio France à Athènes. Elle s'éteint à 61 ans après une longue carrière journalistique consacrée donc à son pays, sa société, sa culture, dont elle était une excellente connaisseuse. La rédaction de France Inter a une pensée ce matin pour ses proches.
Quelle peine immense. Merci Alexis Morel. À suivre, Yael Gauze, Dominique Seux, Sonia De Villers.